Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sur les sentiments que peut éprouver un lauréat distingué par l'Académie suédoise, l'un de mes confrères Nobel, comme il nous appelle, le docteur André Lvoff, dans une lettre qu'il a eu la gentillesse de m'adresser, c'est on ne peut mieux expliquer. La recherche étant un jeu, écrivait-il dans son remerciement, il importe peu, en théorie tout au moins, que l'on gagne ou que l'on perde. Mais les savants, et je dirais aussi les écrivains, les savants donc possèdent certains traits des enfants. Comme eux, ils aiment gagner, et comme eux, ils aiment être récompensés. À quoi André Lvoff ajoutait, au fond de lui-même, tout savant, tout écrivain, dirais-je encore, désire être reconnu. Et si j'essaie d'analyser les composantes multiples de cette satisfaction par certains côtés puérils, je dirais qu'il s'y mêle une certaine fierté, qu'au-delà de ma personne, l'attention se trouve ainsi attirée sur le pays qui, pour le meilleur et malgré le pire, est le mien, et où il n'est pas mauvais que l'on sache que, en dépit de ce pire, existe comme une obstinée protestation, dénigrée, moquée, parfois même hypocritement persécutée, une certaine vie de l'esprit qui, en soi, sans autre but ni raison que d'être, fait encore de ce pays un des lieux où survivre, indifférente à l'inertie ou parfois même à l'hostilité des divers pouvoirs, quelques-unes des valeurs les plus menacées aujourd'hui. Je voudrais ensuite, en m'adressant aux membres de votre académie, leur dire que si je me tourne vers eux pour qu'ils sachent combien je suis sensible aux choix qu'ils ont faits et les en remercier, ce n'est pas seulement pour sacrifier un rite ou pour me soumettre à un simple usage de courtoisie. Ce n'est pas par hasard, en effet, me semble-t-il, si cette institution siège et délibère en Suède, et plus précisément à Stockholm, c'est-à-dire à peu près au centre géographique, ou si l'on préfère, au carrefour des quatre nations qui constituent cette Scandinavie, si petite par le nombre de ses habitants, mais par sa culture, par ses traditions, sa civilité, son appétit de savoir, et ses lois, si grande qu'elle en vient à constituer, en bordure du monde de fer et de violence où nous vivons, comme une sorte d'îlot privilégié et exemplaire. Ce n'est ainsi pas un hasard si les traductions en norvégien, en suédois et en danois de mon dernier ouvrage, Les Géorgiques, ont été les premières à paraître, et ce n'est pas encore par hasard si sur les rayons de la librairie papeterie d'un petit hameau perdu au milieu des forêts et des lacs, on pouvait déjà, l'hiver dernier, en trouver une autre traduction, cette fois en langue finnoise. Tandis que, pour ne parler que de l'un des deux monstrueux géants qui nous écrasent de leur pesanteur, tandis qu'à l'annonce de l'attribution de ce dernier Nobel, le New York Times interrogeait en vain les critiques américains, et que les médias de mon pays couraient fébrilement à la recherche de renseignements sur cet auteur pratiquement inconnu. La presse à grande diffusion publiant, à défaut d'analyse critique de mes ouvrages, les nouvelles les plus fantaisistes sur mes activités d'écrivain ou ma vie, quand ça n'a pas été pour déplorer votre décision comme une catastrophe nationale pour la France. Bien sûr, je ne suis ni assez présomptueux, ni tout de même assez sot, pour ne pas savoir que dans le domaine de l'art et de la littérature, tout choix est contestable, et dans une certaine mesure arbitraire. Et je suis le premier à penser qu'ici et là, dans le monde et en France, tout aussi bien que moi, et peut-être plus encore, plusieurs autres écrivains, à l'égard desquels j'éprouve le plus grand respect, eussent pu être désignés. Si j'ai évoqué les étonnements parfois scandalisés dont la grande presse s'est fait l'écho, parfois même effrayé, un hebdomadaire français à grand tirage a posé la question de savoir si le KGB soviétique n'avait pas noyauté votre académie. Je ne voudrais pas que l'on puisse penser que je l'ai fait dans un esprit mesquin de moquerie ou de triomphe facile, mais parce que ces protestations, cette indignation, cet effroi même, ont été formulées dans des termes qui illustrent, on ne peut mieux, les problèmes qui, dans le domaine de la littérature et de l'art, opposent les forces conservatrices à ces autres que je n'appellerai pas de progrès, ce mot n'en a aucun sens, mais de mouvement, mettant bien en lumière ce divorce de plus en plus prononcé, et dont on a tant parlé, entre l'art vivant et le grand public, heureusement entretenu dans un état d'arriération par les puissances de tout ordre, dont la plus grande peur est celle du changement. Laissons de côté les griefs qui m'ont été faits d'être un auteur difficile, ennuyeux, illisible ou confus, en rappelant simplement que les mêmes reproches ont été formulés à l'égard de tout artiste dérangeant un tant soit peu les habitudes acquises et l'ordre établi. Et admirant que les petits-enfants de ceux qui ne voyaient dans les peintures impressionnistes que d'informes, c'est-à-dire d'illisibles barbouillages, stationnent maintenant en interminable file d'attente pour aller admirer dans les expositions ou dans les musées les œuvres de ces mêmes barbouilleurs. Laissons aussi de côté l'insinuation selon laquelle certains agents d'une police politique pourraient siéger parmi vous et vous dicter votre choix. Quoique, au passage, il ne soit pas sans intérêt de remarquer qu'aujourd'hui encore, dans certains milieux, l'Union soviétique reste le symbole de redoutables forces de déstabilisation, auquel il est, ma foi, flatteur pour un simple écrivain de se voir associé. Car enfin, on a tellement dit, ici et là, on a tellement dénoncé l'égoïste et vaine gratuité de ce que l'on appelle l'art pour l'art, que ce n'est pas pour moi une mince récompense de voir mes écrits, qui n'avaient d'autre ambition que de se hisser à ce niveau, rangés parmi les instruments d'une action révolutionnaire et déstabilisatrice. Ce qui me paraît plus intéressant de